Vous écoutez
RMC.
Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Les pompiers cambriolés dans le Var. L'argent de la cagnotte des calendriers a été dérobé dans la ville d'hier. Vous entendrez leur colère. Un registre de condoléances mis en place ce matin à Saint-Tropez pour rendre hommage à Brigitte Bardot qui sera inhumée le 7 janvier prochain. Et la grippe qui gâche les fêtes pour certains. On constate, et vous l'entendrez, des hausses de passage aux urgences partout en France.
Qui s'en est pris aux pompiers du Var?
C'est l'indignation. Après le cambriolage de la caserne de pompiers dans la ville de Hyères, c'est près de Toulon. C'était hier, Célestin Bougère pour RMC. Les pompiers donc se sont fait dérober tout le bulletin de la vente de leur calendrier.
Eh oui, 140 000 euros ont disparu, de l'argent issu de dons qui étaient stockés dans un coffre-fort de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Hyères. Cette somme, vous l'avez dit, Quentin, correspond à la recette issue de la distribution annuelle des calendriers. C'est ce qu'indique le service départemental d'incendie et de secours du Var hier dans un communiqué. Le SDIS qui dit condamner avec la plus grande fermeté ces faits d'une gravité exceptionnelle. Michael Monoir est membre du conseil d'administration de la Fédération des sapeurs-pompiers. Lui se dit profondément choqué ce matin.
Il s'agit de dons récoltés par nos sapeurs-pompiers au profit de nos orphelins ou de nos différentes actions de solidarité. C'est totalement intolérable. Nous sommes sans voix, nous sommes abasourdis devant une telle situation. Les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, sont des cibles dans une société aujourd'hui qui, effectivement, est parfois très agressif, même vis-à-vis des sapeurs-pompiers.
Une enquête a donc été ouverte pour retrouver l'auteur des faits et comprendre comment une telle somme a pu être dérobée en plein milieu d'une caserne de pompiers. Une plainte a été déposée, les investigations ont, elles, été confiées au commissariat de Hyères.
Alors, un peu plus à l'est, à Saint-Tropez, c'est mercredi prochain, le 7 janvier, qu'auront lieu les obsèques de Brigitte Bardot. Au cours d'une cérémonie en toute intimité, comme l'explique Bruno Jacquelin, le directeur des relations publiques à la Fondation Brigitte Bardot.
Ses volontés étaient d'avoir une cérémonie simple, et je pense que cette cérémonie sera à l'image de ce qu'elle a souhaité. Ce sera une cérémonie privée, sur invitation. L'inhumation sera également privée et suivie d'un moment de partage où tous les tropéziens et les admirateurs de Brigitte pourront se recueillir et intervenir.
Alors l'actrice reposera finalement au cimetière marin de Saint-Tropez qui donne sur la Méditerranée. Elle a visiblement changé d'avis durant les dernières années de sa vie puisqu'elle disait jusque-là vouloir être enterrée chez elle à la Madrague. En attendant, un registre de condoléances est donc mis en place ce matin pour lui rendre hommage à Saint-Tropez où vous êtes pour RMC, Pierre Bourgès.
Nicolas est venu se recueillir auprès de la statue de Brigitte Bardot et pour lui cet hommage est primordial.
Qu'il y ait un hommage sur Saint-Tropez, c'est fondamental. Elle est Saint-Tropez, elle incarne les 60 dernières années. Donc Saint-Tropez lui doit beaucoup. Et donc voilà, un hommage simple, mais chaleureux, c'est très bien.
Il essaiera d'être présent la semaine prochaine. Il suivra la cérémonie depuis l'extérieur de l'église sur deux grands écrans installés pour l'occasion, tout comme Marie-Elisabeth qui ne voulait absolument pas rater ça.
Et je suis contente de rentrer aujourd'hui parce que autrement je l'aurais raté. C'est un bel hommage. Pour moi, c'est un bel hommage.
Brigitte Bardot sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière marin de Saint-Tropez. Une demande que comprend cette habitante.
C'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite être dans l'intimité, donc il faut respecter sa tranquillité.
Un hommage sobre qui ressemble à la star pour la plupart des tropéziens, mais pour Estelle, c'est peut-être trop sobre.
C'est un peu faible. Pour moi, oui, c'est l'icône du siècle. Je pense qu'elle méritait un très grand hommage.
À partir d'aujourd'hui, il sera aussi possible de laisser un mot dans un registre de condoléances à la mairie.
Alors, vous savez que certains, comme Éric Ciotti de l'Union des Droites, veulent un hommage national pour l'actrice. Une pétition en ce sens a été lancée. Pétition qui recueille ce matin près de 20 000 signatures.
Il est 8h04 sur RMC et on découvre cet incroyable imbroglio administratif 4 jours après l'attaque de 3 femmes dans le métro de Paris.
Oui, puisque l'homme suspecté de les avoir poignardées au couteau était présenté jusque-là par le ministère de l'Intérieur comme un Malien en situation irrégulière sous OQTF. Eh bien, c'est en fait un Français, puisqu'il avait été naturalisé en 2018. Constance Boston, vous avez des précisions donc sur cet imbroglio.
Oui, le ministère de l'Intérieur explique que l'homme n'a jamais fait valoir sa nationalité française. Pour Sema Hackman, avocate spécialisée en droit d'asile, seules 2 explications sont possibles à cet imbroglio administratif.
Soit ils ont procédé à une déchéance de nationalité et le mec n'est pas au courant. Soit ils se disent c'est un Malien, on fait pas trop le tri et ils ne font même pas gaffe au fait qu'il ait la nationalité française.
Pour l'heure, des vérifications sont en cours, mais selon cette avocate, le cas est loin d'être isolé.
Moi, je vois régulièrement des personnes qui ont un récépissé. D'accord, un récépissé en matière d'asile. C'est-à-dire qu'il y a un dossier à la préfecture et malgré ça, on met des OQTF de façon complètement aberrante et contra legem à des individus et on se retrouve à aller devant le tribunal administratif.
Dans un rapport publié il y a un an, la Cour des comptes alertait déjà sur l'insuffisante interconnexion entre les fichiers d'information de l'État concernant les étrangers en situation irrégulière, ce qui empêche, selon elle, l'administration de disposer d'une vision complète du parcours de chacun sur le territoire national.
Une enquête est ouverte à Paris après la mort vraisemblablement de froid d'un septuagénaire retrouvé sans vie sur un boulevard du 17e arrondissement de la capitale. C'était dimanche soir. Le plan grand froid venait d'être activé à Paris. Il l'est depuis hier dans le Rhône comme dans une quarantaine de départements en cette fin d'année. 10 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront déployés demain. Rien qu'à Paris, pour le réveillon du nouvel an, c'est autant que l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait passer d'ailleurs au préfet un message de fermeté.
Et cette année, c'est la grippe qui gâche la fête.
Oui, le pic de l'épidémie est attendu cette semaine. Toutes les régions constatent en ce moment une hausse des passages aux urgences. Nombre d'appels records au SAMU, nous dit Louis Salé.
À Rennes, le 15 croule sous les appels depuis ce week-end. Louis Soula, responsable dans le département et vice-président de SAMU Urgences de France, en a recensé davantage que pendant le Covid.
C'est la période que nous, on redoute. On sait que l'offre de soins n'est pas la même que celle du mois de novembre où tous les cabinets des médecins généralistes sont ouverts. Et malheureusement, en France, je trouve que on n'arrive pas à se préparer à ce genre d'afflux de patients.
Un manque d'anticipation constaté aussi dans les Bouches-du-Rhône, où plus de 7% des passages aux urgences sont liés à la grippe. Kader Benayed est secrétaire départemental du syndicat Sud Santé.
Ce qui est malheureux, c'est que c'est chaque année que ça se passe. Très vite, on atteint un point de saturation. C'est-à-dire que je vous défie d'aller aux urgences aujourd'hui. Ben vous verrez qu'il y a des personnes qui attendent 8, 9, 10, 11, 12 heures pour pouvoir accéder à un soin. C'est pire que le Covid.
Son syndicat demande l'activation du plan blanc pour renforcer les effectifs. Dans ce département, une quinzaine de médecins ont déjà été réquisitionnés.
La fin des gobelets en plastique, eh bien ça attendra. On l'apprend ce matin, les gobelets jetables contenant du plastique ne seront pas interdits tout de suite. Cette interdiction était prévue pour le 1er janvier de l'année prochaine, 2026. Eh bien finalement, c'est repoussé de 4 ans, 2030. C'est publié ce matin, un journal officiel. Le ministère de la Transition écologique invoque, je cite, une faisabilité technique. Le chantier de la 69 va-t-il se poursuivre entre Castres et Toulouse ? C'est aujourd'hui, en principe, que la justice administrative doit dire si ce chantier contesté, vous le savez, doit continuer ou s'il doit à nouveau être interrompu. Le rapporteur public, dont l'avis est très suivi en la matière, recommande la poursuite des travaux. C'est le moment de faire le plein de carburant. Ça faisait 3 ans que les prix à la pompe n'avaient pas été aussi bas, aussi peu élevé plutôt. On est à en moyenne 1,59€ le litre de sans plomb 95 en ce moment, 1,53€ pour le litre de gazole. Ça s'explique par le baril du pétrole qui est au plus bas, mais ça va remonter, on le sait déjà, au 1er janvier avec une hausse annoncée des taxes. Bref, c'est le moment de faire le plein. Les automobilistes bretons l'ont bien compris, nous dit Martin Lange en Ille-et-Vilaine pour RMC.
Pierre savoure la baisse du prix des carburants.
Ça fait du bien. Après les fêtes, ça permet de se faire plaisir pour le jour d'eau.
D'autant que pendant les vacances, les Français roulent. Philippe est venu voir son fils en Bretagne.
On habite dans l'Ain, alors ça fait quand même 800 km. C'est intéressant quand même, quoi. Sur un long trajet, c'est sûr.
Ceux qui ont repris le travail apprécient aussi. Olivier est paysagiste, il parcourt 60 000 km par an.
On arrive à faire des pleins de voitures à moins de 100€ maintenant, donc c'est quand même pas mal pour des gens qui roulent beaucoup. À la fin de l'année, c'est pas négligeable.
Laurence aussi a fait ses calculs.
Je fais mon plein presque une fois par semaine, donc ça fait une économie réelle. Ça peut faire au moins entre 10 et 20 euros.
D'ailleurs, ils sont très nombreux à remplir leur réservoir à quelques jours de la nouvelle année, comme Michel.
Je me suis dépêché de venir faire un plein avant le 1er janvier. J'ai entendu que ça allait augmenter.
Car les pétroliers vont voir leurs taxes augmenter et vont répercuter ce surcoût sur les automobilistes. Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie.
Il est prévu qu'il y ait une petite augmentation de quelques centimes. Cette taxe est destinée à limiter en quelque sorte la consommation de combustibles fossiles. Pour le reste, il n'y a pas de raison que le prix de l'essence augmente de manière considérable.
Une augmentation de 4 à 6 centimes selon les pétroliers français.
Savez-vous pourquoi les prix des places sont-ils aussi élevés pour la Coupe du Monde de foot l'année prochaine en Amérique et notamment aux États-Unis ? Eh bien, c'est parce que la demande est forte. Alors on a le droit de pas y croire, mais c'est en tout cas la justification du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour expliquer la politique tarifaire qui est pointée du doigt.
En 2 semaines, en 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets. Ça nous montre à quel point la Coupe du Monde est puissante. Et la FIFA est la seule organisation qui finance le football dans le monde. Le football existe grâce aux revenus que nous générons lors de la Coupe du Monde, de l'argent que nous réinvestissons, bien sûr, dans le monde entier.
the world.
Et alors, en attendant la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, vous la suivez sur RMC Radio Officielle. Le Sénégal, le Nigeria et la Tunisie, notamment, vont jouer aujourd'hui au lendemain de la qualification pour les huitièmes du Maroc, qui s'est rassuré en battant la Zambie 3-0 avec encore un ciseau acrobatique magnifique de l'attaquant El Kabi.
Merci beaucoup. C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC.